Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui sonne un peu poétique, je trouve. Les consonnes liquides en français.
Oui, un terme presque alchimique.
C'est ça. Et pour décortiquer ça, on a des sources vraiment intéressantes. Un cours de phonétique de Frédéric Sabio, des extraits Wikipédia et surtout une discussion passionnante sur Reddit. Un apprenant est tombé sur un os avec un très très vieux livre de grammaire.
Et c'est ça qui est génial.
Notre mission, du coup, clarifier tout ça. Pourquoi une vieille grammaire de 1870 met L, M, N et R dans le même sac des liquides alors que les sources modernes n'en gardent que deux? Et qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ces consonnes?
En fait, ce qui est fascinant, c'est que cette confusion, c'est une porte d'entrée sur l'évolution de la linguistique elle-même. On va voir la différence entre une description un peu impressionniste, basée sur des sensations,
C'est ça.
et une analyse phonétique moderne, beaucoup plus chirurgicale. C'est un petit voyage dans le temps de la science du langage, en fait.
Alors allons-y, on plonge direct dans le vif du sujet avec le post Reddit qui a tout déclenché, celui de Lonely Human 2001. En gros, il dit: Bonjour, mon livre dit que M, N sont des liquides comme L et R, mais ça n'a aucun sens pour mon oreille.
Il dit que M, N et L ne sonnent pas du tout comme R. Et c'est une intuition auditive très juste d'ailleurs.
Exactement. Et quand on lui demande d'où il sort ça,
Ah oui, le coupable.
le voilà. Un livre qui s'appelle French Grammar by Herman Brayman, qui date d'il y a 150 ans. Et là, on a une pépite d'archéologie linguistique.
Ah oui, complètement. Ce livre classe les consonnes en catégories qui nous semblent vraiment étranges aujourd'hui. Il y a les muettes, les sibilantes, et puis nos fameuses liquides qui incluent L, M, N et R.
Bon, avant de sortir l'artillerie lourde de la science moderne, essayons de nous mettre 2 secondes dans la tête de ce Herman Brayman. Il devait bien avoir une logique, non? Pourquoi il a mis M et N avec L et R?
Absolument, et c'est un excellent réflexe. On peut presque l'imaginer à son bureau. Pour lui, liquide, ça voulait dire qui coule. Et d'une certaine manière, les sons m et n, qui sont des nasales, eh bien, ils ont une continuité, un flux d'air qui passe par le nez.
Ah oui, si on prolonge le son.
Exactement. Ou en, ben ça coule, ça ne s'arrête pas net. Ils ont dû se dire que cette qualité fluide, ben ça s'opposait à l'explosion d'un p ou d'un t. C'était une classification basée sur l'impression, sur la sensation.
C'est fascinant, une approche presque sensorielle de la langue. Mais c'est là qu'un autre utilisateur sur Reddit, DrinkUp, il arrive et, disons-le, il fait entrer cette vieille grammaire dans le 21e siècle avec fracas.
Ah oui, il y va pas de main morte. En substance, il dit « Tu ferais mieux de jeter ce livre », et il explique pourquoi point par point, c'est très éclairant.
Alors qu'est-ce qu'il lui reproche?
D'abord, le péché originel de beaucoup d'anciennes grammaires. Ils confondent tout le temps les lettres et les sons. Ensuite, les classifications elles-mêmes sont, bah, elles sont fausses selon nos standards. Ils classent T et D comme des dentales, alors qu'en français, elles sont alvéolaires.
Attends une seconde. Alvéolaire, ça veut dire quoi, précisément?
Très bonne question. Une consonne dentale, la langue touche les dents. Pense à l'espagnol. Une alvéolaire, comme notre T et notre D français, la langue touche la petite crête juste derrière les dents du haut, les alvéoles.
D'accord, c'est une question de millimètres.
Oui, mais c'est une distinction fondamentale en phonétique. Et ce n'est pas tout. Il y en a une autre, assez savoureuse. Le livre de Brayman met ch, donc le son ch, dans les gutturales.
Les gutturales. Mais ça n'a rien à voir.
Rien? Un son guttural, ça vient du fond de la gorge, comme la jota espagnole. Le son ch de chat, c'est tout à l'avant de la bouche. C'est comme dire qu'un violon est une percussion.
On voit bien le décalage, oui. On passe d'une carte dessinée à la main à une image satellite. Et donc, DrinkUp conclut logiquement que M et N ne sont absolument pas des liquides aujourd'hui. L'intuition de l'apprenant était la bonne.
Voilà, et cette critique nous amène à la question suivante. Si ce n'est pas ça, alors, qu'est-ce qu'une consonne liquide aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que L et R sont restés dans ce club très sélect alors que M et N ont été virés?
Alors justement, la réponse, on la trouve partout, dans les commentaires Reddit, dans le cours de Sabio, c'est clair et net. En phonétique moderne, il n'y a que deux membres, seulement L et R.
Et la raison pour laquelle elles sont ensemble n'a plus rien à voir avec une vague impression de fluidité. C'est une raison fonctionnelle, structurelle, et c'est résumé brillamment dans une citation partagée sur Reddit, tirée du livre Savoir dire.
Oui, je l'ai là. C'est leur capacité presque vocalique de se joindre à d'autres consonnes pour former des groupes consonantiques acceptables en début de syllabe.
Presque vocalique, c'est ça la clé.
J'adore cette idée. Elles ont un petit quelque chose d'une voyelle, une sorte de super-pouvoir social qui leur permet de faire équipe avec une autre consonne pour commencer une syllabe.
C'est exactement ça. La plupart des consonnes ne peuvent pas faire ça. Essayez de commencer un mot français par PTK. C'est impossible. Mais si vous mettez un L ou un R en deuxième, ah, là, tout devient possible.
Elles sont comme un liant, un lubrifiant phonétique.
C'est ça. Elles permettent de former ce qu'on appelle une attaque de syllabes complexe.
Et là, ça devient concret. On en voit partout de ces équipes. On a bleu dans blanc.
Breu dans abru.
Bleu dans plus.
Preu dans pris.
Fleu dans affleuré. Greu dans hongrois. C'est cette capacité à former une attaque à deux qui est leur marque de fabrique.
C'est leur job dans l'architecture de la syllabe française. C'est ce comportement qui les définit, pas une ressemblance sonore. C'est un principe d'organisation super puissant.
D'accord, le critère n'est plus comment ça sonne, mais qu'est-ce que ça fait dans la structure ? C'est clair. Sauf qu'au moment où on croit avoir tout pigé, un commentaire de Scatterbrain Plot sur Reddit vient tout compliquer.
Ah oui, celui-là.
Il dit que, techniquement, d'un point de vue articulatoire, le re du français moderne, le R qu'on fait dans la gorge, n'est même pas une vraie liquide.
Et là, on touche au cœur du sujet.
Mais alors, attends, ça me perturbe. Si le re moderne n'est pas produit pareil qu'un L, et que ce n'est même plus une vraie liquide, pourquoi on continue de les mettre dans le même sac ? Ça semble totalement illogique.
C'est la question parfaite. Et elle nous oblige à faire la distinction entre la phonétique et la phonologie. La phonétique, c'est l'étude physique des sons. La mécanique, quoi. Et d'un point de vue phonétique, tu as raison. Notre re, une fricative uvulaire.
Un frottement au fond de la gorge.
Voilà. Ça n'a presque rien à voir avec le L, qui est une latérale alvéolaire où l'air passe sur les côtés de la langue. Physiquement, ce sont une pomme et une orange.
D'accord. Et la phonologie, alors ?
La phonologie, c'est l'étude du rôle, du comportement d'un son dans les systèmes d'une langue. C'est sa fonction. Et c'est ça le point de Scatterbrain Plot. Même si le son du re a changé, il se comporte phonologiquement de la même manière que l'ancien. Il a gardé le même job.
Comment ça ? Le son a changé ? On ne le prononçait pas comme ça avant ?
Pas du tout. Pendant des siècles, le R français était un R roulé fait avec la pointe de la langue. Un peu comme en italien aujourd'hui. Et ce R roulé, lui, c'est une vraie liquide phonétiquement.
Ah oui.
Le changement vers le R guttural, ça a commencé dans les milieux populaires parisiens au XVIIe siècle, puis ça s'est répandu. Mais, et c'est ça qui est fou, en changeant de nature physique, le son a gardé son ancien poste. Il peut toujours former ses groupes train, grand, frère. La fonction est restée, même si le son a été remplacé.
C'est un peu comme dans une équipe de foot. Le joueur numéro 10 change. On passe d'un dribbleur à un super passeur. Le style est différent, mais il occupe toujours le même poste et organise le jeu.
L'analogie est parfaite. Le maillon a été donné à un nouveau joueur, avec de nouvelles compétences physiques, mais il joue exactement au même poste. C'est pour ça qu'on continue, par tradition, et surtout par analyse fonctionnelle, de le classer comme une liquide.
Ça veut dire que le système de la langue s'en fiche un peu du son lui-même tant que le travail est fait.
D'une certaine manière, oui. Le système phonologique est plus abstrait que les sons physiques qui le réalisent. L'important, c'est de maintenir des oppositions, des fonctions. On a d'ailleurs un exemple historique génial de cette mobilité des liquides dans la source Wikipédia sur la métathèse.
La métathèse, c'est quand les sons changent de place, c'est ça ?
Exactement. L'exemple, c'est le mot latin marmor, marbre. En russe, c'est devenu mramor. Le R s'est déplacé pour aller faire équipe avec le M en début de syllabe. Ça montre bien cette tendance naturelle qu'elles ont à vouloir former des groupes.
D'accord. Mais pourquoi c'est si important pour une langue de former ses groupes ? Ça rend la parole plus efficace ?
C'est une question qui va au cœur de la phonotactique. Une des idées, c'est l'efficacité, oui. Permettre des attaques comme breu ou pleu, ça permet de coder plus d'infos en moins de temps. Ça compacte le mot. Une autre idée, c'est lié au rythme, à la prosodie. Ça crée une texture sonore plus riche. Compare patate et plateau.
C'est pas le même rythme, c'est vrai.
Et ce n'est pas que le français. En anglais, play, pray. C'est le même principe.
C'est fou. C'est un truc que j'utilise tous les jours sans jamais y avoir pensé. Ça change ma perception de l'architecture invisible des mots.
Et cette architecture, elle a des conséquences très concrètes sur la façon dont on coupe les mots en syllabes. Ce n'est pas juste du jargon. Le cours de Frédéric Sabio est très clair là-dessus.
Oui, il explique la règle pour une séquence VCCV, voyelle, consonne, consonne, voyelle, premier cas. Si la deuxième consonne est une liquide, L ou R, alors les deux consonnes restent ensemble et commencent la syllabe suivante. L'exemple, c'est « abriter ». Le groupe BR reste soudé.
Voilà. Et deuxième cas, si la deuxième consonne n'est pas une liquide, alors le groupe se sépare. La première consonne finit la première syllabe, la seconde commence la suivante. Son exemple, c'est « acteur ». Acteur. Le K et le T ne peuvent pas faire équipe.
Ils se repoussent.
C'est ça, alors que le B et le R s'attirent.
Donc, comprendre ça, ça aide à saisir le rythme du français. Ça explique pourquoi on dit « acrobate » et non « acrobate ». C'est une règle de structure fondamentale. Est-ce qu'il y a des exceptions ?
Bien sûr, la langue est toujours plus complexe. Parfois, la morphologie, la structure du mot en préfixe et racine, entre en conflit. Prenez « sublingual ». La phonétique voudrait couper « sublingual ». « Bla » est un groupe parfait.
Mais le sens nous dit « sub plus lingual ».
Exactement. Et là, le sens gagne, on coupe « sublingual ». Mais ce sont des cas où deux logiques s'affrontent. La règle de base reste incroyablement robuste.
C'est un super résumé. On est parti de la confusion d'un apprenant sur Reddit avec un livre de 150 ans et on arrive à une compréhension plus fine de la structure même du français parlé aujourd'hui.
Pour conclure, on a vu que la définition d'un terme comme « consonne liquide », ce n'est pas gravé dans le marbre, ça a évolué. Et l'utilisateur Scatilbrainplot a une phrase que je trouve géniale à ce sujet. Il dit, avec humour, que définir une liquide par son comportement phonologique, ça fonctionne parfaitement, mais je suppose que seuls les linguistes ne regarderont pas la personne avec un regard vide.
C'est vrai que ça peut paraître abstrait, mais une fois qu'on a les clés, ça éclaire tout. On a l'impression de voir le code source de la langue.
Exactement. Et ça soulève une dernière question, je trouve. On a vu une règle qui a complètement changé en 1500 ans. Combien d'autres règles qu'on tient pour acquises, en grammaire, en orthographe, ne sont en fait que l'état actuel d'un savoir en constante évolution? Et comment cette idée peut transformer notre approche de l'apprentissage? En nous invitant non pas juste à mémoriser une règle, mais à toujours questionner le pourquoi qui se cache derrière. Et peut-être même à imaginer comment elle pourrait encore changer.